Radio Okapi, regard sur l'actualité de la semaine.
Bonjour et bienvenue dans votre émission de Radio Okapi titulée Regard sur l'actualité de la semaine en RDC. Ravi de vous retrouver encore ce matin. Nous rappelons que chaque samedi à partir de 7h25 de Kinshasa, nous vous proposons de passer en revue les faits qui ont marqué l'actualité de la semaine en cours. Avec nos invités, nous essaierons de comprendre pourquoi ces faits sont importants et quelles peuvent être leurs conséquences sur la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, pour justement passer en revue de l'actualité de la semaine, nous recevons ici au studio Mme Faïda Mwangula, elle est membre de la société civile, elle est experte en genre. Bonjour Mme Faïda Mwangula.
Bonjour Monsieur Guy et bonjour à nos auditeurs et auditrices.
D'où Jésus Belédou, journaliste et éditeur de libertéactu.net à Kinshasa. Bonjour D'où Jésus Belédou.
Bonjour chers confrères et bonjour aux auditeurs de la radio Élysée.
Et en ligne depuis la ville de Liège en Belgique, Bob Kabamba, politologue et professeur à l'université de Liège en Belgique. Bonjour professeur Bob Kabamba.
Bonjour à vous et à tous les auditeurs de Radio Capi.
Merci à tout de suite pour la rétrospective de 7 jours d'actualité. Mesdames et messieurs, vous écoutez Regard sur l'actualité de la semaine, l'émission qui passe en revue l'actualité qui a compté au cours de 7 derniers jours de la semaine.
Si vous avez manqué une édition du journal en français et en langue nationale de Radio Okapi, ou encore la chronique coronavirus et le journal de sport, vous pouvez appeler gratuitement le service 42-502 en utilisant un numéro Vodacom. Les appels sont gratuits. Composez les 42-502 et choisissez le menu de Radio Okapi en appuyant sur 3 après le message de bienvenue. N'oubliez pas, les appels sont gratuits en utilisant un numéro Vodacom. Radio Okapi, encore plus proche de vous pour mieux vous servir.
Nous sommes d'un regard sur l'actualité de la semaine. Je rappelle que cette émission connaît la participation de D'où Jésus Belédou. Il est journaliste et éditeur de libertéactu.net. Madame Faïda Mwangula, membre de la société civile, elle est experte en genre. Et en ligne depuis la ville de Liège en Belgique, Bob Kabamba, il est politologue et professeur à l'université de Liège en Belgique. Trois sujets au menu de cette émission, à savoir nomination d'Efor Nyasigbe comme nouveau médiateur dans la crise de l'Est de la RDC. Débat sur l'instauration du fédéralisme en RDC et enfin la ville de Kinshasa et les inondations, responsabilité des autorités provinciales de la ville-province de Kinshasa. Mais nous allons commencer par émettre un commentaire au sujet de la décision prise la semaine dernière par les chefs de l'État relative à la sanction des mandataires publics. En effet, les sanctions disciplinaires à l'encontre des mandataires de l'État devront désormais être communiquées au préalable au chef de l'État. Cette décision a été annoncée vendredi 11 avril lors de la 39e réunion du Conseil des ministres selon le porte-parole du gouvernement Patrick Muyaya. D'après lui, cette mesure vise à renforcer la transparence et à garantir la paix sociale au sein des entreprises et établissements publics. Le président de la République a également chargé la première ministre d'organiser régulièrement, avec l'appui du ministre du portefeuille, des sessions de formation à l'intention des responsables des entreprises et établissements publics, ainsi que des ministères de tutelle. Ces sessions auront pour objectif de renforcer la maîtrise des procédures disciplinaires et d'éviter les abus. D'où Jésus Belédou, désormais les sanctions disciplinaires, nous l'avons dit ici, à l'encontre des mandataires de l'État, devront être communiquées au préalable au chef de l'État. Qu'est-ce vous inspire cette décision?
Oui, en effet, c'est une sorte, d'une part, aussi ce qui est dit, de mettre fin à l'arbitraire. L'arbitraire qui existait dans ce secteur, avec des suspensions et des règlements des comptes entre le ministère du portefeuille et certains mandataires. En fait, en réalité, nous avions assisté beaucoup plus à des règlements des comptes, d'une part, et ceci n'a pas beaucoup aidé la République. De l'autre côté, malheureusement, ce sera une sorte de crime à l'impunité, disent certaines opinions, dans la mesure où, vous savez, il se passe des choses très compliquées dans la gestion de plusieurs mandataires d'entreprises publiques. Si l'on fait foi aux différents rapports, notamment de l'inspection générale des finances, vous allez voir qu'au-delà des papiers financiers, au-delà du contrôle a priori, Mais il y a quand même une sorte de vendetta de la gestion qui est instaurée par des mandataires publics. Et il était vrai que si on laisse la responsabilité des sanctions au seul président de la République, ou attendre ce que le président de la République prenne des mesures dans ce sens-là, eh bien, nous risquons de créer un boulevard à l'impunité, malheureusement. Ça, c'est la crainte de cette mesure. Et donc, je pense que il faudrait suivre l'évolution de la situation actuellement, beaucoup plus faire confiance enfin aux organes de contrôle. Il n'y a pas que l'Inspection générale des finances, il y a la Cour des comptes, il y a le Parlement. Il faudrait que ces différents organes jouent effectivement leur rôle comme cela se fait dans une république normale. Parce que tout ne devait pas être centralisé au niveau de la présidence, et surtout quand il faut sanctionner, attendre une mesure ou un aval de la présidence de la République, cela risque justement de consacrer d'un côté l'impunité. Et donc il faudrait renforcer le pouvoir de l'IGF. Il faudrait aussi que le Parlement joue effectivement son rôle de contrôle, notamment la Cour des comptes également.
Merci Madame Faïda Manguiloy. Il est de notoriété publique que le ministre, avant de prendre des sanctions disciplinaires contre les mandataires nommés par une ordonnance présidentielle, envoie d'abord une copie pour information au chef de l'État et à la première ministre. On sait que c'est ce qui s'est toujours fait dans ces pays. Mais en dépit de cela, le chef de l'État conditionne toute initiative des ministres dans ce sens à une information préalable à son égard. Est-ce que vous comprenez les motivations du chef de l'État, Madame Faïda Manguiloy?
En tout cas, une telle mesure, directement, on voit qu'il peut y avoir des avantages, mais en même temps des inconvénients. Des inconvénients qu'il faut éviter. Parce que, comme venait de le dire mon prédécesseur, nous avons des organes de contrôle. Et lorsque chacun ou chaque personne ne sait pas suivre cela, la manière de gérer la gouvernance dans une entreprise, ça pose problème. Et jusque quand on doit attendre la décision ou l'aval du président pour sanctionner un mandataire, je ne sais pas. Parce que déjà, la présidence de la République comme institution a plusieurs charges. Bien sûr, il est le garant du bon fonctionnement des institutions, mais quelque part, il ne faut pas trop charger ou trop centraliser le pouvoir. Mais je me dis aussi, dans un contexte qui est le nôtre, un contexte de guerre, il y a deux fois des actes qui se posent au niveau des entreprises qui n'encouragent pas. Pour les responsables et les ministères, peut-être, ils arrivent à prendre des décisions pour sanctionner injustement les mandataires. Mais aussi, chaque personne voudrait se retrouver dans la gestion. On dit, on ne sait jamais, laissez-moi placer aussi le mien. Voilà, des décisions taillées sur mesure, c'est ce qui tue, qui pénalise la bonne gestion au sein de nos entreprises publiques et tout. Donc, c'est vraiment à examiner avec beaucoup plus d'attention et de voir qu'est-ce qui est meilleur pour la nation. Parce que moi, je sais qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans les entreprises. Quand je vois, par exemple, moi j'observe, nous étions à la session des CSW à New York. J'ai pas apprécié la manière dont la délégation était constituée. Vous avez des pléthores, mais vous avez aussi des gens qui ont voyagé, mais qui ne font pas du travail pour lequel elles ont été envoyées. Vous les trouvez dehors, en train de prendre des photos. Et pour nous, qui travaillons en dehors des institutions, ça nous rend malade. C'est pas tout le monde, mais je dis bien quelques-unes. Donc, la gestion, qu'est-ce qu'on fait pour envoyer les délégations? Est-ce que c'est de façon sentimentale? Comment on gère les entreprises publiques? Est-ce que c'est de façon arbitraire? Moi, je crois que l'arbitrage n'a plus son sens dans notre gouvernance qui a pas mal de difficultés aujourd'hui. Et je crois qu'il y a lieu de faire un choix utile par rapport aux options à prendre.
Merci, professeur Bob Kabamba. À votre avis, après cette décision du président de la République, qu'est-ce qui pourrait changer dans la procédure justement visant à prendre des sanctions disciplinaires à l'encontre des mandataires de l'État?
il y a des textes qui existent et qui régissent effectivement le fonctionnement des institutions et même des institutions para-étatiques. Et ces textes sont clairs, prévoient même des sanctions qui peuvent être prises par les autorités de tutelle, etc. Ici, si ce n'est pas, je ne pense pas que ce soit véritablement une compétence du chef de l'État pour pouvoir s'immiscer dans la gestion des entreprises publiques, surtout prendre les prérogatives et les compétences qui ne sont pas les siennes, ce sont des compétences qui sont liées à l'exercice donc du pouvoir au niveau ministériel. Et donc lorsque le chef de l'État prend une telle mesure, là véritablement nous changeons de système de fonctionnement. Là nous allons véritablement dans ce qu'on appelle un présidentialisme très 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 fort. Et par ailleurs aussi, c'est qu'il y a une dualité qui existe au niveau du sommet de l'État, au niveau de l'exécutif, entre d'une part le chef de l'État qui définit avec le gouvernement les grandes lignes de la politique de la nation, et c'est le gouvernement qui met ça en application. Et donc lorsque le chef de l'État prend une telle mesure en disant qu'il doit valider les décisions qui doivent être prises par les ministres dans le cadre des sanctions, et là véritablement le chef de l'État n'est plus dans un rôle de définition de la politique à suivre, mais il devient dans un rôle d'exécution au même titre que le ministre, au même titre que le gouvernement, ce qui pose problème légalement au niveau donc de la régulation des institutions entre les deux. Le problème pour ma part n'est pas les textes, ce n'est pas les sanctions, c'est plutôt les hommes qui sont choisis. On choisit les hommes par rapport aux nominations qui sont faites. Généralement, quand on nomme, pour qu'on n'est pas arrivé à ce que l'on puisse nommer des gens qui n'ont pas les compétences requises, il y a toujours une phase de présélection. Dans beaucoup de pays, il existe des systèmes de sélection, des systèmes de filtrage pour être sûr que les personnes qui sont nommées soient véritablement des personnes compétentes et qui savent exercer ces compétences-là. Et je dis cela parce que tout simplement aussi, par rapport à la décision qui a été prise par le chef de l'État en demandant à la première ministre de pouvoir mettre en place des séances de renforcement des capacités de ces gestionnaires. Ça veut dire qu'au préalable, donc on a nommé des gens qui n'étaient pas à leur place, avec une espèce de copinage, sans expérience et sans bagage professionnel adéquat. Et cela pose véritablement problème en termes de fonctionnement de l'État, en termes de gestion, et on peut maintenant aisément comprendre avec ça l'État dans lequel se trouvent la plupart des para-étatiques et qui ne font plus leur travail comme ils doivent le faire, et nous sommes véritablement dans un système, on va dire, un système de copinage qui n'est plus vraiment un système d'administration.
Merci, on prend une petite pause avec Buffalo Soldio de Bob Marley et on se retrouve juste après. Buffalo Soldio de Bob Marley. Bob Marley, c'est reggaeman jamaïcain qui nous a quittés le 11 mai 1981 aux États-Unis. Paix à son âme. On revient à l'actualité cette semaine. Le président Félix Tshisekedi et Faure Gnassingbé ont eu le premier échange mercredi 16 avril depuis que le numéro 1 togolais a été nommé médiateur de l'Union africaine dans la crise qui secoue l'Est de la RDC. La rencontre a eu lieu à Kinshasa, rapporte la présidence congolaise. Cette visite qualifiée de prise de contact entre les deux dirigeants n'a donné lieu à aucun communiqué. Le président togolais a également été reçu ce même mercredi par le président angolais João Lourenço, qui est en même temps président de l'Union africaine. La rencontre a eu lieu à Luanda. Au centre de leur échange, les efforts visant à restaurer la paix, la stabilité et la sécurité dans l'Est de la RDC. Par ailleurs, Massad Boulos, conseiller principal du président américain Donald Trump pour l'Afrique, a rendu un verdict sévère à l'encontre de Kigali, exigeant qu'il cesse tout soutien au M23 et qu'il retire ses troupes de l'Est de la RDC. Ces exigences de l'administration Trump envers Kigali ont été exprimées lors d'un point de presse tenu le jeudi 17 avril à Washington. Cette déclaration intervient quelques jours seulement après que Massad Boulos s'est entretenu avec Félix Tshisekedi à Kinshasa et Paul Kagame à Kigali au sujet de la crise sécuritaire qui sévit dans le Kivu. Lors de son point de presse, l'émissaire de la Maison Blanche a déclaré « Les conflits durent depuis trop longtemps, plus de 30 ans, il est temps d'y mettre fin ». Bob Kabamba, vous êtes politologue, professeur à l'Université de Liège en Belgique. Vous avez souhaité nous parler de la nomination de Faure Gnassingbé en tant que nouveau médiateur dans la crise qui affecte l'Est de la RDC. On vous écoute.
Merci. C'est que cette nomination pose véritablement beaucoup de questions. Je dois vous rappeler quand même que dès le départ, lorsque la communauté internationale s'est mobilisée pour essayer de résoudre ce conflit, avait lancé deux processus, un processus qu'on appelait celui de Luanda et l'autre de Nairobi. Celui de Luanda donc était destiné à pouvoir travailler sur le rapprochement entre États, donc c'est une dynamique bilatérale, Luanda. RDC, sous la médiation donc de Lorenzo, le président anglais, lui-même désigné par, à l'époque, Macky Sall pour venir à mener cette négociation. Et d'autre part, il y avait une deuxième dimension avec la dynamique, on va dire, beaucoup plus interne entre le gouvernement de la RDC et les différents groupes armés qui sont actifs à l'est du Congo. Et ces deux processus n'ont pas abouti pour plusieurs raisons et que c'est terminé pratiquement en queue de poissons. Et avec aussi des antagonismes qu'il y a eu entre ces deux processus, jusqu'à ce que l'on arrive finalement à ce que les deux organisations sous-régionales, SADC et East African Community, se mettent d'accord en disant qu'on va fusionner les deux processus. Et en fusionnant les deux processus, ce sommet a décidé de désigner 5 facilitateurs pour pouvoir prendre le relais et aussi bien de Luanda et que de Nairobi avec un seul processus. Et donc on a cette dimension-là, et par ailleurs, au cours de ce sommet, la présidence angolaise avait décidé de pouvoir rendre l'établier, ça c'est l'expression qu'ils ont utilisée, rendre l'établier aux 5 facilitateurs qui ont été désignés par ces deux organisations, en n'oubliant pas que l'Angola fait partie de la SADC et que la RDC fait partie de la SADC et aussi de EAC. Donc ça, c'est une dynamique qui est en train de se mettre en place. Parallèlement à ces dynamiques, on a encore une autre dynamique qui a vu le jour il y a quelques jours, c'est la dynamique de Doha, donc au Qatar, où on a des négociations maintenant entre le M23 et le gouvernement de Kinshasa. On ne sait plus nécessairement dans quel niveau il faut maintenant mettre ces discussions qui sont en train de se passer à Doha. Et en bout de course, on a aussi Faure Gnassingbé qui vient de désigner au nom de l'Union africaine pour pouvoir jouer la même partition, c'est-à-dire essayer de résoudre le conflit. Alors, lorsqu'on regarde effectivement ce que tout le monde est en train de faire, on se rend bien compte qu'on est en train de faire du surplace, c'est que ça n'avance pas, et on ne sait plus quelle est la dynamique qui va essayer de pouvoir résoudre le problème. Puisque plusieurs problèmes se posent, notamment par toute cette dynamique, aussi bien la dynamique de Faure que la dynamique de la SADC, aussi bien que la dynamique de Doha, c'est qu'il y a un grand problème de cahier des charges, c'est-à-dire qui fait quoi, qui va négocier quoi, qui va négocier avec qui, et quel processus est concerné. Et donc, cette nomination, pour ma part, ne fait qu'ajouter une confusion qui existe, et où on ne sait plus vers quoi on va pouvoir aller et surtout comment essayer de faire en sorte que ce conflit puisse arriver à terme. N'oublions pas que ce sont toujours, comme souvent, la population civile qui est la première victime de toute cette guerre qui n'a que trop duré, plus de 30 ans, et ça continue, et il était temps que ça puisse s'arrêter, mais on ne sait pas quel est le chemin à pouvoir prendre.
Oui, vous dites qu'on fait du sur place. Vous ne pensez pas que pour qu'on puisse évoluer, et que toutes les personnes qui interviennent, n'est-ce pas, dans cette crise, puissent se mettre d'accord sur certains principes, puissent essayer d'harmoniser les points de vue afin que les choses puissent évoluer comme il se doit?
Ben justement, c'est une bonne question que vous posez. La difficulté, c'est qu'on ne sait pas, on ne connaît pas les cahiers des charges de tous ces processus. Et donc, normalement, ce qui aurait lieu de faire, de mon point de vue, la démarche de force n'était pas nécessaire du fait que, au niveau sous-régional, on avait déjà décidé qu'il y avait 5 médiateurs qui vont travailler sur ces questions-là. Et alors, la rénomination de Fort, alors que le médiateur, donc Lorenzo, avait déjà rendu le tablier en disant, OK, le processus va continuer. Et moi, de mon point de vue, c'est-à-dire tout simplement parce qu'il y a tellement des enjeux qui sont derrière ce conflit, faire en sorte que là, chacun a envie de pouvoir essayer de tirer profit de cette confusion, et ça ne va pas être nécessairement facile de pouvoir arriver à mettre tout ce monde autour de la table et à essayer de revoir à une seule position commune. Parce que la décision de Fort, est-ce qu'elle ne va pas à l'encontre de la décision de la SADC et de EAC lorsqu'ils ont désigné les 5 facilitateurs? Est-ce que Fort va travailler avec les 5 facilitateurs ou pas? Est-ce qu'il va travailler avec aussi les autres partenaires, parce qu'il y a aussi d'autres intervenants à plusieurs autres niveaux, que ce soit au niveau européen ou au niveau américain, comme on l'a entendu tout à l'heure, comme on l'avait présenté avec l'envoyé spécial des États-Unis. Et donc toutes ces dynamiques-là vont dans tous les sens, et il n'y a pas nécessairement une seule direction pour arriver à essayer de soulager les maux dont souffre la population civile dans cette partie de la RDC.
Voilà, s'il faut revenir justement à Fort Gnassingbé, le fait de n'appartenir ni au bloc EAC ni à celui de la SADC ne lui donne pas assez de marge de manœuvre, professeur?
Non, je ne pense pas que ça va lui donner assez de marge de manœuvre, d'autant plus qu'il l'est aussi de fait que le Togo a quand même des relations avec le Rwanda, et ça, à Kinshasa, c'est clairement une chose que Kinshasa n'accepte pas nécessairement en disant, oui, il va être pas partial, etc. Il y a des relations Togo-Rwanda en matière commerciale, Togo-Rwanda en matière sécuritaire, et même en matière culturelle, où il y a des liens assez forts entre les deux. Et il y a eu plusieurs visites du président Kagame au Togo et vice-versa. Et quand vous lisez la plupart des communiqués qui sortent après ces différentes visites, il y a véritablement un lien très fort qui est beaucoup plus fort avec Kigali qu'avec Kinshasa. Et donc cet état de fait, pour moi, ne va pas faciliter les choses au président togolais, va peut-être aussi compliquer les choses plus pour lui que ce qu'on pourrait y penser.
Merci, Dou Jésus Belédou, journaliste et éditeur de libertéactu.net. La RDC, le Rwanda et l'Angola sont des pays d'Afrique centrale, mais le Togo, c'est un pays d'Afrique de l'Ouest. Peut-on dire que plus on est éloigné géographiquement d'un conflit, plus il y a des détails qui peuvent vous échapper, et dans le cas d'espèce, cela ne serait pas un handicap pour le président Faure Gnassingbé?
Je pense que cette posture pourrait aussi, peut-être, à mon avis, jouer un rôle positif. Mais ce qui est important ici, c'est d'abord de revenir sur ce que disait le professeur Kababa. Vous savez, nous avons connu plusieurs processus. Le processus de Nairobi, le processus de Luanda, le prof Kabamba l'a rappelé, le processus d'Addis Abeba, et le processus Doha. À cela, j'ajoute le processus SFC5O, et puis le processus à Kinshasa et Berande. Et après, nous avons le processus Fort Gnassingbé. En fait, nous assistons à une sorte de chevauchement des processus qui, malheureusement, à mon humble avis, risque de nous éloigner des cahiers des charges, effectivement, de ce conflit. Alors, Fort Gnassingbé aura pour mission, moi je pense d'abord, en premier lieu, de restaurer cette confiance entre les partis. Ça veut dire, il y a d'un côté Kinshasa qui accuse Kigali de soutenir les rebelles de l'AFCM 23, ce que le Rwanda dément. Nous avons vu les précédentes médiations qui ont pratiquement échoué à cause de cette médiance. Ceci a été aggravé également par des combats qui ont persisté malgré les différences que le fait prononcer. Et donc, le président togolais devra harmoniser les initiatives des faits également. Ça, c'est en second lieu. Il doit harmoniser les processus d'initiative des paix. Ces processus dont je faisais mention ici et je parlais des chevauchements, il y a notamment les processus de Nairobi qui est piloté par l'EAC. Il y a le processus de Luanda qui a été sous l'égide de l'Angola. Et tous ces processus qui n'ont pas justement permis d'avoir finalement un cadre unifié. Est-ce que Faure Gnassingbé a ses profils? Moi, je pense que si nous scrutons, nous allons peut-être voir d'un côté, cela pourrait être avantageux dans la mesure où le président Tshisekedi entretient de bons rapports avec le président Gnassingbé. Et c'est un pays francophone, autant que le Rwanda. C'est vrai que le Rwanda est devenu un pays anglophone, mais le Rwanda, à la base, est un pays francophone. Et ce qui fait que, sur le plan de la médiation, ça pourrait être un bon départ, dans la mesure où Gnassingbé entretient de très belles relations avec le Rwanda et Kagame, et de très belles relations avec Félix Tshisekedi. Et c'est un pays francophone, cela pourrait d'abord être un bon départ. Ensuite de cela, il a l'avantage de ne pas être de la sous-région. Ça veut dire qu'il y a un aspect confiance qui va se développer. Son pays n'est pas un pays frontalier. Vous savez, à un moment donné, Kinshasa s'est méfié de tous les autres pays frontaliers. Vous avez suivi les discours que Kinshasa a développés de manière officielle ou non officielle sur la position du Congo-Brazzaville. Il y avait une méfiance complète entre Kinshasa et Brazzaville, parce qu'on estimait que le président Sassou qui a accepté de couvrir une bonne partie des terres au Rwanda, est juste à la frontière avec la RDC, et donc les Congolais avaient développé une sorte de méfiance. Il suffisait simplement de voir les longs littoraux du fleuve Congo pour voir les dispositifs militaires que Kinshasa avait placés justement en direction de Congo-Brazzaville. Et donc, cet aspect confiance pourrait jouer quelque chose. Et l'autre attentat, c'est que c'est le fils de l'ancien président de la République, Tshisekedi est le fils de l'ancien politique de renom. Et ça, ce sont peut-être des avantages de manière un peu maquillée. Mais le fond du problème demeure. Est-ce que Gnassingbé arrivera à faire ce que Lorenzo, qui maîtrise la sous-région, qui a une position de choix dans la sous-région, n'a pas pu faire? C'est ça le problème, justement. Moi, je pense qu'au-delà de tout ceci, la solution passera par une organisation en interne. Vous savez, quelqu'un a dit, une diplomatie sans les armes, c'est une musique sans instrument. Le problème, c'est que, au niveau interne, Kinshasa ne s'organise pas militairement pour renverser la situation militaire, ceci veut clairement dire mener des opérations pour récupérer les territoires occupés. Si Kinshasa compte essentiellement sur les résultats de la médiation, qui malheureusement constitue aujourd'hui un dilatoire qui consacre pratiquement la balkanisation, à mon avis, des territoires, parce que ça ne fait que durer, nous risquons d'être bernés par des processus et des processus et tracer la voie justement à la balkanisation. Merci. La solution pour mieux négocier aujourd'hui, il faudrait renverser la situation militaire en interne, ne serait-ce que récupérer certaines grandes villes pour ainsi avoir une bonne négociation. Merci. Mais tant que sur le terrain, Kinshasa n'arrive pas à renverser ce rapport de force en interne et compte sur les médiations et les discussions interminables, dit, croyez-moi, chers confrères, nous allons passer des processus en processus, et la crainte, c'est que nous risquons de tracer la voie pour la balkanisation avec les discours qui se développent d'ailleurs avec le fédéralisme dans un contexte de guerre, et ceci
ne fait que faire craindre le pire.
Merci, Dou Jésus Benedou. Madame Faïda Mangulois, vous êtes membre de la société civile experte en genre. Justement, cette position que l'administration américaine vient d'exprimer envers le Rwanda, lui exigeant de cesser tout soutien au M23 et de retirer ses troupes de l'Est de la RDC, est-ce que cette position ne pourrait pas faciliter la tâche à Fornia Sigbe qui vient d'arriver?
Moi, je crois, je vais d'abord revenir sur un fait par rapport à nos collègues qui venaient de parler. Je vois bien sûr des processus, je dirais, juste à poser. Le processus de Luanda, le processus de Nairobi, de Doha. Mais dans tout cela, il y a des engagements. Le respect des engagements, quand vous prenez le processus de Nairobi, c'est un processus qui concerne la RDC et les groupes armés. Quand vous prenez le processus de Luanda, vous voyez la RDC et le Rwanda. Moi, je crois qu'il y a un effort à faire dans le respect des engagements. Mais la décision de dire, ok, le Rwanda, vous pouvez retirer vos hommes, vous aussi qui êtes sur le terrain comme Rébellion, M23 et autres, vous devez déposer les armes. Moi, je crois que ça, c'est le respect de la résolution 2773, qui demande à ce qu'il y ait le cessez-le-feu, parce que la situation sur terrain est catastrophique sur le plan humanitaire. Devons-nous laisser des milliers de personnes mourir et ne pas trouver des solutions? C'est là que nous appelons à la bonne volonté des parties prenantes, toutes les parties prenantes, y compris la partie gouvernementale. Donc, je parle de mon pays, la RDC. Donc, la résolution d'un conflit ne peut pas seulement se terminer par des guerres, mais ça peut aussi se terminer par voie diplomatique. Vous restez ensemble, vous regardez le problème en face, vous avez la bonne foi de part et d'autre, vous pouvez résoudre le problème qui est en face de vous. Et c'est là que nous nous disons, effectivement, l'initiative de l'administration américaine peut sauver la situation si les autres parties prenantes sont de bonne foi.
Merci, chers auditrices et chers auditeurs. L'actualité en RDC est aussi l'actualité musicale. Lundi 21 avril prochain, c'est l'anniversaire de l'artiste et musicien, chanteur et compositeur Pascal Lokwakanza. À cette occasion, nous allons écouter l'une de ses compositions intitulée Salé, et on revient juste après.
Patama koinda na likolo Nano kelingula lipanda na kuzela sale Kamemela ye volono ya boni wa kimanga Nalinga kaye, sale nanga
Peyo sale, kero sale, sale Peyo sale, kero
Radio Capi, regard sur l'actualité de la semaine.
Bonjour, nous revenons dans cette émission Regard sur la société de la semaine. Je rappelle que chaque samedi à partir de 7h25 heure de Kinshasa, nous vous proposons de passer en revue les faits qui ont marqué la société de la semaine en cours. Avec nos invités, nous essayons de comprendre en quoi ces faits sont importants et quelles peuvent être leurs conséquences sur la RDC. Dans la première partie de ces magazines, nous avons fait un commentaire au sujet de la décision prise la semaine dernière par les chefs de l'État relative à la sanction des mandataires publics. Nous avons également analysé la nomination de Faure Gnassingbé en tant que nouveau médiateur dans la crise de l'Est de la RDC. Participe à cette émission, Dou Jésus Belédou, il est journaliste et éditeur de libertéactu.net. Madame Faïda Mwangilwa, il est membre de la société civile experte en genre. Et en ligne depuis la ville de Liège en Belgique, Bob Kabamba, il est politologue et professeur à l'université de Liège en Belgique. Dans une tribune publiée vendredi 11 avril, Olivier Kamitatou, cadre du parti politique Ensemble pour la République, plaide pour la création d'une république fédérale du Congo. Selon lui, le fédéralisme représente une voie réaliste et nécessaire pour construire un Congo uni, prospère et pacifique, où chaque région jouerait un rôle actif dans le destin commun. L'ancien président de l'Assemblée nationale constate que la centralisation excessive de la gouvernance freine le développement du pays malgré ses immenses richesses naturelles et culturelles. Kamitatou propose aussi que le système fédéral soit accompagné des réformes institutionnelles avec des mécanismes de solidarité nationale et des contrôles citoyens renforcés. Il souligne que cette proposition de fédéralisme ne serait pas une rupture avec l'unité nationale, mais plutôt un moyen de consolider cette unité à travers la valorisation des identités régionales dans un cadre commun. Madame Faïda Mwangilwa, vous avez souhaité nous parler de ces débats, n'est-ce pas, sur l'instauration du fédéralisme en RDC. On vous écoute.
Merci beaucoup. L'instauration du fédéralisme en RDC, c'est pas un nouveau discours ou un nouveau débat. C'est un débat qui date de longtemps. Je me rappelle aux négociations politiques intercongolaises tenues à Sun City en Afrique du Sud, cette question était sur la table. Mais en fin de compte, après débat, nous sommes tombés d'accord sur la forme de l'État que nous avions voulu tous unitaire, mais fortement décentralisé. Alors, cette étape-là, je vous assure, chers auditeurs et auditrices, je réalise que nous l'avons échoué. Échoué dans le sens que la population n'a pas trouvé son compte. Et ça, c'est par non-respect des textes. Parce que déjà, lorsque vous regardez les articles 175-181 de notre Constitution, on nous parle de la part des recettes à caractère national qu'on doit allouer aux provinces. Et ces recettes étaient fixées à 40% et elles étaient retenues à la source. C'était dit comme ça. Mais après l'adoption de cette constitution, aujourd'hui presque 20 ans, bientôt 20 ans, depuis 2006 jusqu'à aujourd'hui, on ne met pas en application cela. Et ça retarde les provinces. Dans mon travail quotidien, j'ai la grâce de faire presque toutes les provinces. J'ai la grâce d'aller par voie routière, par avion, dans les provinces et même dans les entités administratives décentralisées. Mais c'est regrettable. Il y a plus des humains, des acteurs politiques qui bénéficient de cette décentralisation parce qu'ils ont leurs fonctions politiques. C'est des gouverneurs, on a créé les 25, nous avons 26 provinces, y compris la ville-province de Kinshasa. Nous avons en province, on a le gouvernement provincial, on a des assemblées provinciales. Nous avons maintenant aussi des conseils communaux. Mais dans tout cela, où est la part de la population? Parce que le projet de développement ne suivait pas. La Constitution a même prévu la caisse de péréquation qui avait pour mission de financer des projets et des programmes pour le développement des entités administratives décentralisées et même pour créer l'équilibre, la solidarité au niveau national. Mais malheureusement, il était prévu 10% à la caisse de péréquation. Tout cela nous n'exécutons pas. Alors lorsque je rentre sur les débats, disons l'opinion ou l'avis de l'ancien président de l'Assemblée nationale, honorable Olivier Kamitatou, je me dis, est-ce que c'est pertinent? Oui, c'est pertinent. Est-ce que c'est urgent? J'ai dit, dans un contexte de guerre, à un certain moment, à ce moment-ci, est-ce que c'est la fin des hostilités, la fin de la guerre qui est prioritaire, ou on commence directement, on lance le processus du fédéralisme? Nous ne serons pas éclaboussés, parce que chaque province, si c'est taillé, ce processus est taillé sur mesure, ça va amener le même régime. En se disant, nous prenons le Katanga, parce qu'on a parlé des 6 anciennes provinces, dont le Katanga, le Kivu, le Oriental, l'Équateur, le Congo et le Kasaï. Alors, les opérateurs politiques vont aller là-bas, avec les mêmes méthodes de gestion, ça crée encore des frustrations qui peuvent être très fatales pour la population.
Et alors, donc vous pensez que c'est pertinent, mais pas urgent?
C'est pertinent, mais pas urgent comme de base. Ce qui est urgent, pas opportun. Ce qui est opportun aujourd'hui, c'est d'abord la fin des hostilités. Et que nous puissions nous réconcilier comme peuple et de dire, est-ce que nous pouvons entrer dans une gouvernance qui puisse protéger tout le monde? Je vous assure, moi, quand je regarde notre génération, avant les années 90, je parle de 88, 89, 90, 91, la jeunesse s'est battue pour la démocratisation. Et pour nous, on pensait que ça serait la même chose comme tous les autres États du monde. Mais malheureusement, nous sommes rentrés dans le même système où on se voit soi-même comme dirigeant et ne pas voir la population. Donc, nous devons nous discipliner comme leaders d'opinion, même dans nos débats. Qu'est-ce qui est prioritaire pour la population aujourd'hui? Si vous allez au Kivu, vous dites à la population, non, nous allons commencer le fédéralisme. La population va vous dire, mettez d'abord fin aux conflits armés.
Merci beaucoup, Madame Faïda Mwangiloa. Professeur Rob Kabamba, il y a des experts qui ont proposé qu'avant d'envisager l'instauration du fédéralisme comme nouvelle forme de l'État, que l'on évalue objectivement les régionalismes consacrés par la Constitution qui nous régit actuellement, qu'on se demande pourquoi la décentralisation n'a pas pu permettre aux provinces de se développer. Vous ne pensez pas qu'il faille commencer par là, professeur Rob Kabamba?
Merci en tout cas pour c'est une question fondamentale qui a toujours passionné la vie politique congolaise depuis donc l'indépendance du pays. Souvenez-vous avec ce qu'on appelait la loi fondamentale, donc la première constitution de la RDC, ce problème-là il était déjà posé. Même au niveau de ce qu'on appelait la table ronde de 1959 à Bruxelles, lorsque l'on a décidé de pouvoir octroyer l'indépendance au Congo, et donc cette question était déjà sur la table. Et il y avait deux grands leaders qui portaient ce débat. On a d'une part le fédéralisme qui était porté par Kassavubu et l'unitarisme qui était porté par Lumumba. Et on est arrivé à un compromis. Et ça, cette question est toujours fondamentale. Et à chaque fois, lorsqu'il y a des velléités militaires, souvenez-vous la rébellion de 64, souvenez-vous la sécession du Katanga, la sécession du Kasaï, etc., ce débat-là a toujours passionné la vie politique congolaise. Oui, c'est pertinent de pouvoir parler de ça. Oui, c'est des questions qu'il faut aborder. Alors, par réponse à votre question, clairement, lorsque l'on connaît un peu le système de fonctionnement de la RDC, c'est-à-dire le système actuel qui est constitutionnalisé avec la constitution de février 2006, ben, on va dire, oui, tout ce dont beaucoup parlent, c'est déjà dans la Constitution. La question des ressources que l'on doit retenir à la source, la question de développement, la question des plans de développement provincial, etc., l'administration provinciale, la sécurité provinciale, le développement économique au niveau provincial, tout ça est déjà, on va dire, dans les textes qui nous régissent déjà aujourd'hui. Mais la question, effectivement, par rapport à vous disant, oui, est-ce qu'il ne faudrait pas évaluer en toute objectivité le système actuel pour savoir si on peut aller au-delà ou pas? C'est toujours, malheureusement, le cas, le problème que l'on a remarqué par rapport à tous les problèmes que l'on rencontre la RDC, ce n'est pas nécessairement un problème de texte. Chaque fois, c'est toujours un problème des animateurs que l'on a, et surtout, surtout de la volonté politique de pouvoir les appliquer. Comment voulez-vous que les textes qui vous disent que non, il y a 40% qui souhaitent retenir la source et qu'on doit faire une loi pour pouvoir arriver à ce que ces provinces puissent arriver à avoir cette 40%, ben, la mise en œuvre de cette disposition n'est pas effective. Pourquoi est-ce que ce n'est pas effectif? Parce qu'au niveau de Kinshasa, on n'a pas envie de perdre cette manne pour que les provinces puissent arriver à se détacher de Kinshasa. Kinshasa vit essentiellement de tout ce qui vient des provinces, de toutes les provinces, donc forcément, il y a cette dimension importante. Par ailleurs aussi, il faut toujours mettre ça en lien justement avec la phobie de sécession, en disant oui, si on donne les 40% aux provinces, donc il y a certaines provinces qui seront plus riches que d'autres moins riches, et qu'il y aura des velléités sécessionnistes. Oui, ce sont des débats qui existent partout au monde, dans tous les pays. Lorsque vous avez des questions liées à des ressources financières plus importantes, oui, il y a des velléités sécessionnistes. C'est classique, c'est tout à fait logique. Le tout, c'est d'avoir des mécanismes, c'est tout, c'est d'avoir des institutions qui fonctionnent et qui régulent ça. Les institutions, ça existe. Les systèmes existent. Malheureusement, c'est la mise en œuvre. Et la mise en œuvre, et je clôturerai par paraphraser Patient Bagenda, qui est l'ancien de la société civile, et qui dit clairement que le Congo ne souffre pas des institutions, ne souffre pas des textes, mais le Congo souffre de ses hommes politiques.
Merci, Dou Jésus Belédou. L'unitarisme avec une forte décentralisation est pratiquement l'antichambre du fédéralisme. Et si on n'a pas pu relever les défis du développement à partir de la base à travers cette forme hybride, qu'est-ce qu'on sera à mesure de faire avec le fédéralisme s'il est instauré aujourd'hui, Dou Jésus Belédou?
Moi, je crois que le débat, il est là. On ne peut pas empêcher un débat intellectuel. Le débat sur le fédéralisme, comme le disaient mes co-débatteurs, c'est un débat qui passionne les Congolais et ça ne date pas d'aujourd'hui. Effectivement, on ne peut pas interdire à l'homme politique ou à l'homme congolais de réfléchir sur l'opportunité ou pas d'instaurer le fédéralisme au pays de Félix Tshisekedi. Cependant, il faudrait se poser aussi des questions. Les latinistes disent pourquoi ce débat maintenant ? In tempore suspecto. Vous savez, le pays est en proie à une guerre dans la partie orientale. Les grandes villes, notamment Goma, Bukavu, Walikale, etc., sont entre les mains de l'ennemi. Et c'est pendant ce moment que l'on veut lancer un débat sur le fédéralisme. Nous tous ici, nous craignons. On ne l'a pas dit à haute voix, mais moi je l'ai dit. Nous craignons que si cette situation perdure, nous craignons une balkanisation de notre pays. L'on s'interroge d'ailleurs sur est-ce que nous sommes là sur déjà la voie de la balkanisation de la RDC. Parce que Goma, Bukavu, la grande partie Kivu, qui constitue pratiquement les côtés utiles du Congo, avec ce minerai dans le sous-sol, échappe au contrôle du gouvernement central. Faut-il rappeler ici, dans une sortie médiatique de l'Inspection Générale des Finances, Pinguette disait que juste pour la douane, la RDC perdait près de 300 millions de dollars le mois dans la partie est du pays, qui échappe au contrôle du gouvernement central. Et donc, la RDC est amputée de son côté utile. Amener ce débat sur la place publique, c'est consacrer pratiquement la balkanisation, c'est soutenir le velléité de la balkanisation, et ce n'est pas que moi qui le dis. Suivez la classe politique, suivez les Congolais, l'élite congolaise. Je pense que madame l'a rappelé dans cette émission, et dit l'opportunité que cela soit débattu aujourd'hui, du fédéralisme ou pas, est non-dit. Le non-dit, c'est que ça risque de consacrer la balkanisation du pays. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, l'homme politique congolais veut une chose et son contraire. Nous venions d'assister à un débat sur le changement ou la révision de la constitution lancée par le régime de Kinshasa. Le président Tshisekedi, vous vous rappelez, partout où il passait, il a fait son périple, où il a manifesté la volonté soit du changement, soit de la révision de la Constitution. Mais vous avez vu comment la classe politique s'est insurgée contre cette idée, y compris ensemble de Moïse Katumbi. On ne va pas personnaliser le débat, mais il est quand même curieux qu'à ce stade de choses, on a vu sur le front le parti ensemble de Moïse Katumbi, avec notamment Olivier Kamitatou, s'insurger farouchement, pas seulement contre le changement de la Constitution, mais contre la révision constitutionnelle, du moins dans ses articles clés. Alors, dites-moi, qu'est-ce qui a changé pour que ce même parti, qui s'est insurgé contre le changement ou les révisions de la Constitution, se lance un débat qui va nous amener à déverrouiller même certains articles clés et verrouillés de cette Constitution. Je pense qu'il y a Anguisse Proche, parce que le fédéralisme voudrait dire effectivement le changement ou la révision de la Constitution, ou toucher les articles clés de cette Constitution. Et donc, je suis très dubitatif sur les vraies intentions d'Olivier Kamitatou et de Moïse Katumbi en lançant ces débats sur le fédéralisme, dans un contexte de crise et dans un contexte où nous savons que une partie de notre pays est occupée par une armée étrangère, je citais le RDF, le Rwanda, qui occupe. Et donc, nous n'allons pas vouloir accepter en ce moment même que le débat sur le fédéralisme soit une priorité, alors que certains de nos compatriotes vivent ce calvaire-là. Certains de nos compatriotes sont coupés pratiquement des avantages que la nation devrait en principe leur donner, c'est-à-dire la protection et le bien-être.
Merci. On prend une petite pause en écoutant Zenaba, cette chanson de Franco Luambo Makiadi, et on se retrouve juste après.
Kangela kenga motema Tona mobali olingi zenaba Na yebaki zenaba Biloko zalaki kolambelanga Ozalaki kokabola pasanyo Maeninga na kapamba te zenaba Olingaki kaka toswana Tozwa raison to boyana Nandimaki teze nabaye Nandenge ozalaki komilengele Elo mikabi yobo misekele Nasela nini zenaba Napesa kiyo motema Yoka mati yoka bi zenaba Kambwe bomba makate zenaba Miswe lingaka esika bako pekisa Mwasi basale la zua bibali balajaka Natikeli yo zenaba Yo sala la vi zenaba Kasita la nansima zenaba Oh zenaba Maloba Alobina landa yete Nakanisa Azali moto A changé la vie Na makaliti A eba sokina Ni ako remplace Zenaba kei Zenaba kei
C'est C'était Zenaba, cette composition de Franco Lombo Macchiadi sortie en 1973 dans l'orchestre Ok Jazz. On a reconnu les voix de Josti Kambukuta, de Samangwana et de Michel Boibanda dans cette chanson. Je rappelle que nous avons dans cette émission Dou Jésus Belédou, il est journaliste et éditeur de libertéactu.net. Madame Faïda Wangilois, elle est membre de la société civile, elle est experte en genre, et en ligne depuis la ville de Liège en Belgique. Bob Kabamba, il est politologue et professeur à l'université de Liège en Belgique. Le gouvernement a annoncé mardi 15 avril la destruction des habitations construites en zone interdite afin de prévenir les inondations. Cette décision a été prise lors d'une réunion tenue à la Cité de l'Union africaine, présidée par le chef de l'État Félix Tshisekedi, en présence de la cellule de crise chargée d'évaluer la situation sur le terrain. Selon la présidence de la République, cette cellule informera prochainement des mesures concrètes, notamment la démolition des infrastructures érigées dans les zones non constructibles de Kinshasa. À l'issue de la réunion, Patrick Muyaya, ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, a révélé que le bilan des inondations causées par les pluies torrentielles des 4 et 5 avril a été révisé à la hausse. 75 décès contre 45 initialement annoncés et plus de 11 000 sinistrés hébergés dans 4 sites pris en charge par les autorités. Face à cette situation critique, le porte-parole a expliqué que le président Tshisekedi a demandé au gouvernement et à la cellule de crise d'analyser en profondeur les causes du désastre et d'établir un état des lieux précis des besoins afin d'y répondre. D'où Jésus Belodi, vous avez souhaité, n'est-ce pas, nous parler de la ville de Kinshasa et les inondations en vous focalisant sur la responsabilité des autorités provinciales et de la ville-province de Kinshasa. On vous écoute.
Merci beaucoup, cher confrère. Vous savez, j'ai l'impression finalement que nous assistons à une arnaque qui ne dit pas son nom, permettez-moi cette expression, de la part des autorités du pays. Pourquoi je le dis ? Vous savez, gouverner, c'est prévoir. Mais lorsque l'on attend qu'il y ait catastrophe naturelle, qu'il y ait mort de compatriotes, pour finalement prendre des mesures, qu'il y ait des commissions de crise. Je rappelle que c'est la 10e ou 11e commission de crise que l'on a créée en 5 années sur des catastrophes naturelles. Je pense qu'à un moment donné, il faudrait se ressaisir et se poser des bonnes questions. La bonne question, justement, c'est de savoir qui donne la vie de lotissement aux gens qui construisent sur les égouts d'abord. Vous savez, lorsque les Belges sont partis, ils ont laissé cette ville. Nous sommes en 1960. Ils ont laissé des collecteurs d'eau sous des municipalités, ces collecteurs d'eau, notamment à Gombe, commune de Kassavubu, Barumbu, Lingwala, Kitambo, etc., pour ne citer que ces communes, pour canaliser les eaux sur le fleuve Congo, les eaux des pluies, les eaux des ménages. Mais actuellement, le gouvernement qui s'est plaint, mais constate impuissant sur les lotissements. Sur les égouts, il y a un rapport de l'Assemblée provinciale sous Godin Poli. Il dit clairement que l'immeuble qui est situé à la gare centrale du Congo, l'immeuble est inachevé, je ne sais pas si c'est l'immeuble de Raken. Cet immeuble est construit sur les collecteurs des égouts. Ces collecteurs des égouts qui ramenaient de l'eau qui venait de Barumbu, de Kinshasa, de Kassavubu et de Lingwala, passaient par là pour être jetés sur le fleuve Congo. Malheureusement, cet immeuble est loti sur les collecteurs d'eau et cela s'est affaissé. Et aujourd'hui, tout le monde s'étonne du fait que lorsqu'il pleut désormais dans ces communes dont je fais allusion, il y a des inondations. À Gombe, il y a des inondations. On nous a dit clairement que dans un rapport qui existe à l'APK, le seau des moutons sur Mandela est construit sur des collecteurs d'eau. Mais si ces rapports-là, les journalistes peuvent en avoir, a fortiori, ceux qui nous dirigent, les députés nationaux, les députés provinciaux, les ministres des urbanismes, les affaires foncières, etc., ceux qui donnent la vie des lotissements sur ces collecteurs. Et donc, aujourd'hui, on s'étonne que Gombe est inondé sur les pluies et des communes environnantes. J'arrive vers la rivière Djili, je vais terminer par là.
Vous savez, lorsque les ministres de la justice, les militaires de la justice vous disent, on a construit sur le lit de la rivière Ndjili. Mais personne ne le croit. Vous êtes journaliste. Il suffit simplement de faire un tour vers la rivière Ndjili pour constater combien de gens construisent, même à hauteur, sans tenir compte de l'urbanisation.
Merci, professeur Bokabamba. Il y a des scientifiques qui pensent qu'au-delà de cette responsabilité de l'homme, la ville de Kinshasa se trouve dans une position où elle ne peut pas faire face aux inondations. Vous ne pensez pas qu'il faille, cette fois-ci, élaborer un véritable plan d'urbanisation de la ville de Kinshasa, professeur Bokabamba?
Merci. Donc, normalement, quand on dit gouverner, c'est prévoir, on connaît bien tous les problèmes, on connaît les problèmes de la ville de Kinshasa. Généralement, quand on connaît des problèmes, on essaie de mettre en place des solutions, on essaie de prendre des décisions qui vont dans le sens d'améliorer les choses. Malheureusement, ce qu'on constate qu'au Congo, on fait les mêmes constats, on fait les analyses, mais par rapport maintenant à la concrétisation de ce qu'il y a à faire pour résoudre ces problèmes-là, là, on est aux abonnés absents, et lorsqu'on est aux abonnés absents, on préfère être dans la futilité, aussi bien danse, etc., comédie, comme vient de le dire donc au débatteur, et donc on préfère dans ça, et en pensant que dans cette façon-là, qu'on est en train de résoudre les problèmes. Et ça, c'est malheureusement une chose que l'on constate, ce n'est pas uniquement lié à la ville de Kinshasa, c'est de manière globale, en disant oui, il n'y a pas de vision, il n'y a pas de plan, il n'y a pas un plan de développement. Vous vous souvenez depuis toujours, déjà à l'époque de l'indépendance, le premier gouvernement avait mis en place un plan général de développement. Mobutu avait parlé par exemple d'objectifs 2000, etc., etc., etc. Toute une série de choses comme ça où on plante justement les grandes lignes de ce qu'il faut faire aujourd'hui, demain, après-demain, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on arrive à solutionner les problèmes. Oui, les problèmes sont connus. Oui, les solutions sont connues. Malheureusement, on tourne en rond et en essayant de faire du spectacle. Et aussi, ce qu'il faut aussi dire, malheureusement, c'est que au lieu de pouvoir aller dans la gestion véritablement du pays en vue de résoudre les problèmes pour que la population ait un mieux-être, on est plus dans la dilapidation des moyens de l'État, on est plus dans l'État qui devient l'objet d'enrichissement personnel plutôt que l'État qui devient un agent de développement. Il suffit de regarder uniquement le budget. Lorsque vous regardez la part qui est réservée au fonctionnement des institutions, vous allez voir que l'essentiel du budget de l'État congolais va au fonctionnement des institutions. Et ça, sincèrement, on peut tout dire, mais c'est véritablement une faute grave de se dire oui, les institutions qui sont là ne font que vivre des recettes de l'État et ne participent pas au développement donc du pays. Et c'est l'une des grandes maladies du pays et que je ne vois pas demain ni après-demain les choses s'arranger plutôt que les choses vont continuer à s'empirer. Et même bêtement, vous savez, même quand il y a des prévisions météo, Radio Capi, vous faites des prévisions météo en disant, mais voilà, tel jour il va pleuvoir, etc., etc. Même cet élément-là en disant, oui, on peut faire ce qu'on appelle de la prévention en disant, il va pleuvoir. Si on sait qu'il va pleuvoir, prenez au moins des mesures préventives pour essayer de sauver les vies humaines. On parle de 70 morts, mais s'il vous plaît, 70 morts, c'est pas rien. On parle de plus de 40 000, plus de 14 000 ménages qui sont maintenant sans abri aujourd'hui, mais parce qu'on n'a pas su prévoir. Alors que si on aurait pu prévoir, il suffit d'écouter la Radio Capi, vous allez voir la vitesse météo qui va dire, etc. Il y a ça. En tant que pays responsable, lorsqu'il y a des choses comme ça, on prévient déjà en avance, en sachant bien que les problèmes vont arriver, mais malheureusement, tout ça n'est pas pris en considération. Mais par contre, lorsqu'il s'agit de pouvoir dilapider le budget de l'État, de pouvoir aller dans le détournement des fonds, là, nous sommes des champions du monde.
Merci, Madame Faïda Manguidoua. Nous allons terminer cette émission avec vous. N'était-il pas facile de prévenir cette situation si, en amont, avant tout lotissement, on avait l'habitude d'écouter les experts?
Moi, je crois que ce sont les mêmes problèmes qui reviennent. L'absence de l'autorité de l'État, lorsqu'on fait des constructions anarchiques avant de construire, on a toujours un document. Donc tout cela n'est pas suivi. Mais lorsque je vois aussi la responsabilité de la population elle-même, il nous arrive d'aller sur terrain, de sensibiliser les chefs des quartiers et tout, ils vous disent aussi qu'ils n'ont pas de moyens. La province ne rétrocède, ne donne rien aux chefs des quartiers, ne fût-ce que pour faire le suivi et encadrer la population. Je vois, par exemple, dans mon environnement immédiat, ensemble avec les voisins et tout, nous assainissons notre environnement et on n'a pas les problèmes des inondations. Donc, l'éducation ne suit pas. Nous sommes devenus une population, quand tu dis à une personne, mais pourquoi tu jettes ça? La personne va te répondre en lingala, est-ce que c'est toi qui vas arranger ces pays? Donc, et nous évoluons comme ça, on ne sait pas si, où est-ce qu'on a mis le sens des responsabilités, d'abord de la population, quelque chose qui constitue un danger, mais comme c'est aussi, il y a les méli-mélo, tout le monde se met dedans, tout le monde cherche à avoir l'argent pour vendre n'importe où, même les endroits où il ne faut pas construire, on arrive à construire, il n'y a pas de suivi, on octroie des documents, et lorsqu'on démolit, c'est encore la population qui perd. Jamais on vous dira, voilà tel responsable de telle circonscription foncière qui a donné, qui a livré un faux document, voilà, il a induit la population en erreur, on va les sanctionner. On n'a pas vu des gens être sanctionnés pour les actes qu'ils ont posés comme responsables de l'administration publique.
Merci, c'est la fin de cette émission. Merci à vous tous d'avoir accepté d'y participer. Madame Faïda Mangiloa, professeur Bob Kabama et Dou Jésus Beledou. Merci aussi à Didoné Nyangasa qui était à la technique avec la participation de Christian Lomombe, Didier Dadi et d'Hervé Voka sous la supervision de Martin Sebujangwe. À la présentation Guy Maté, merci et bon week-end sur Radio Kapi. Cette émission sera rediffusée ce soir à 21h heure de Kinshasa. Vous pouvez aussi la retrouver sur le site radiokapi.net. On se sépare avec Via, cette composition de Likinga Redo, sortie en 1983 dans l'orchestre Zaiko Langalanga, et on se retrouve le samedi prochain. Oui. Yeah.
kubanana bakosa tobanganga ya kisi batale la kalikambo etikala ere komorene na motema mbula na kangaka enoki bato bapanzani peti pesili peti pesili mamae.
Via, via, papa,
via, via, mama.